Seconde partie du traité de l'incarnation, c'est-à-dire le mystère de l'union. L'union en elle-même, puis de la personne à laquelle se fait l'union, enfin la nature qui est unie. Voyez ? Donc on regarde d'abord la synthèse, si j'ose dire, puis les deux éléments. C'est normal au point de vue théologique. Au point de vue philosophique, on prendrait l'ordre inverse. Vous voyez bien. On part du mystère, hein, c'est toujours ce qu'il faut comprendre. Donc c'est un mystère de l'incarnation vu d'en haut, puisque c'est dans une perspective contemplative que nous devons comprendre la théologie. Au sujet de l'union elle-même, diverses questions se posent. L'union du Verbe incarné se fait-elle dans la nature ? Se fait-elle dans la personne ? Se fait-elle dans le suppôt, l'hypostase ? La personne ou l'hypostase du Christ après l'incarnation est-elle composée ? Dans le Christ, l'âme et le corps sont-ils unis ? L'union de la nature humaine au Verbe est-elle accidentelle ? Cette union est-elle quelque chose de créé ? L'union est-elle identique à l'Assomption ? Vous voyez, toute la question de l'union. Ce serait intéressant pour quelqu'un qui veut essayer de bien saisir cela, de mettre en parallèle avec la question de la simplicité de Dieu. Parce que vous voyez, c'est quand même, au point de vue théologique, la simplicité de Dieu, on nie toutes les compositions. Ici, on est en face d'une composition réalisée par Dieu. L'union, c'est une composition. Il y a quand même deux éléments. Alors, il y a le mouvement inverse. C'est très beau, si on veut le regarder, justement, dans la lumière de la simplicité de Dieu. La simplicité de Dieu reste simple tout en réalisant un mystère unique de simplicité dans la composition. Et alors, je crois qu'au point de vue théologique, je ne l'ai pas poussé assez, alors je n'ose pas vous donner mes conclusions, mais j'y réfléchis, je vous dis de chercher, tu vois. Entre nous, on peut donner des axes de recherche qu'on doit nous-mêmes chercher. Quand on donne trop les conclusions, on ne recherche plus. Alors, on doit comprendre comment la simplicité commande toute la théologie scientifique. Ça, je crois, de plus en plus. C'est vraiment la conclusion de sagesse première et qui est présente à toute la théologie de saint Thomas. Théologie scientifique, hein. Vous voyez, dans un axe de théologie mystique, ce serait l'amour. Dans un axe de théologie scientifique, c'est la simplicité. Un axe de théologie mystique, c'est l'amour, et de l'autre, c'est la simplicité. Alors, je crois que ça nous aide à comprendre ces deux grands axes. Et c'est quand même deux aspects très importants. Et alors, on commence le traité de l'incarnation par le point de vue de l'union. L'analogue à la simplicité, qui n'est pas la simplicité, puisque c'est l'union. Alors, article 1er, de l'union du Verbe incarné a-t-elle pour résultat de constituer une nature unique ? D'après une parole de saint Cyrille, rapportée par les actes du concile de Chalcédoine, alors nous devons être très en présence du concile de Chalcédoine, vous comprenez bien, hein ? C'est pas directement l'écriture, hein ? Ce sera le concile de Chalcédoine, ce seront les grands conciles, je ne les vois pas puisque vous devez les voir. Hein. Alors je présuppose ça connu parce qu'on ne fait pas la matière des autres. Moi je me contente d'entrer dans saint Thomas pour aller le plus loin possible dans saint Thomas. Et puis pour essayer de temps en temps de faire un éclatement de saint Thomas pour saisir ce qui nous est donné. L'on ne doit pas admettre deux natures, mais une seule nature incarnée de Dieu le Verbe. Ce qui semble signifier que l'union du Verbe à l'humanité se fait dans la nature. C'est un peu avoir une herméneutique un peu torse, ça, vous voyez. Si vous regardez attentivement le texte de Calcédoine, c'est assez... Mais c'est bien, ça. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas, les objections. Alors, le sept contrats. Le concile de Calcédoine déclare, nous confessons un seul et même fils unique de Dieu, né pour nous dans les derniers temps, en deux natures, sans mélange, sans transformation, sans division, sans séparation, car l'union n'a pas supprimé la différence des natures. Oui, c'est pas une composition, donc. Tout de suite, hein. Vous voyez, la simplicité demeure. C'est ça qui est mystérieux. C'est là le mystère, hein. C'est donc que l'union ne se fait pas dans la nature. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord considérer ce que l'on entend par nature. Vous voyez, évidemment, quand on n'a pas fait du tout de philosophie, vous voyez bien quand on aborde ça, quid sit natura. Pas commode, hein. Je comprends très bien qu'on rejette saint Thomas, parce que pour lire saint Thomas avec intelligence, il faut beaucoup de préparation. Alors, on ne veut pas de préparation aujourd'hui, on croit qu'on peut faire la théologie tout de suite en lisant l'écriture. Sans passer par, ou on peut s'en parler exégèse, mais on croit qu'on peut toujours. Ah, l'effort du théologien et de la théologie scientifique, de la théologie tout court. Hein. Parce que la théologie scientifique, c'est nécessaire à la théologie tout court. Alors, cet effort présuppose évidemment une intelligence qui est un petit peu taillée, un peu purifiée, quid sit natura. Étymologiquement, donc saint Thomas qui se fait heideggerien, c'est amusant, n'est-ce pas, c'est intéressant de voir ça, la manière, c'est intéressant parce que ça montre que ça revient toujours, on a toujours ce besoin, depuis le Cratyle de Platon, en passant par saint Thomas et Heidegger, mais chaque fois c'est différent, hein. Mais c'est toujours la même procédé, hein. Le Cratyle de Platon, c'est le premier, c'est Platon qui a donné cette chose de chercher les mots, chercher l'étymologie des mots, d'où ça vient, alors lui, étymologie, mais le point de vue du mythe, retrouver dans le mythe religieux le sens des mots philosophiques. Ce qui est très intéressant, ça prouve que tous les mots philosophiques ont un enracinement dans le mythe. Du moutos au logos, ce que dira Heidegger. Hein. Alors saint Thomas, lui, il est latin. Alors le mythe est très loin des latins, c'est curieux. Hein, c'est l'intelligence latine est très très loin. L'intelligence grecque est beaucoup plus proche du mythe. L'intelligence latine, elle est proche du juridisme. Hein. Et alors les juristes et les mythes, mettez-les l'un en face de l'autre, ça fait un très bon guignol. Hein. Ça fait quelque chose d'assez curieux, parce que le juriste est très loin du mythe. Et Heidegger, il revient au mythe, hein. faut bien voir ça. À sa manière, il les recrée du reste, il les recrée, parce que quand ils sont trop perdus dans le temps, il faut les recréer. Étymologiquement, le mot « nature » vient d'un mot latin qui signifie « ce qui doit naître ». Phusis, la croissance, en grec, phusis, hein, la croissance, c'est ce qui croît. La nature, c'est ce qui croît, ce qui implique une croissance. Alors évidemment, tous ceux qui sont dans le point de vue de l'évolution théilhardienne disent, voyez bien, la nature. Même chez Aristote, il y a ça, il y a une croissance. La nature implique une croissance, donc elle implique une évolution. Vous voyez, il y a toute une interprétation en fait un peu de ce sens-là dans Leblon, qui donne un peu ce point de vue-là. Oui, c'est vrai, c'est très vrai que dans Aristote, la nature n'est pas du tout l'essence. C'est pas la même chose du tout. Le mot essence, qu'on y mettra un mot, espèce, c'est logique. Essence, c'est un jugement de sagesse. Et nature est une découverte d'un principe. Donc c'est très très différent. Et pratiquement, très souvent, on est un peu confondu. Donc, le mot « nature » vient du mot latin qui signifie « ce qui doit naître ». Aussi, l'emploie-t-on pour désigner la génération chez les vivants. Nature et génération sont liées, ça c'est très vrai. La génésis du vivant, la génération, que l'on appelle couramment « naissance » ou « reproduction ». La naissance aboutit à une nature. De là, le mot a été pris pour signifier le principe de la génération. Puis, comme le principe de la génération dans les êtres vivants leur est intrinsèque, on en est venu à désigner par le mot nature tout principe intrinsèque du mouvement, tout principe immanent du mouvement. C'est en ce sens que le prend Aristote lorsqu'il dit « la nature est le principe du mouvement dans l'être qui le possède par soi et non accidentellement ». La nature, c'est prudent. Alors vous voyez les trois manières. Saint Thomas donne trois degrés de pénétration. C'est intéressant. L'aspect descriptif qui est lié à la génération. Puis l'aspect qui va plus loin. On découvre à partir de là le principe de la génération. Puis le principe immanent du contenu de la génération. On passe de la description à la cause efficiente et à la cause formelle. Donc ça, c'est je crois, assez courant, ça, comme découverte. N'est-ce pas ? L'aspect descriptif, c'est toujours premier. Puis de l'aspect descriptif, on passe à la source, cause efficiente, puis de la cause efficiente à la cause formelle. D'autre part, ce principe intrinsèque, et soit la forme, soit la matière. Donc on arrive à la division de ce principe. On le divise comme le point de vue de la morphée ou de la houlée, la matière. Le mot nature signifiera tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt l'une, tantôt l'autre. Enfin, la génération naturelle ayant pour fin dans l'être engendré l'essence spécifique, on devait y arriver, signifiée par la définition, l'on pourra aussi donner le nom de nature à cette essence. Alors vous voyez, comme c'est un aspect beaucoup plus critique et beaucoup plus logique, on est passé d'un aspect du vivant à un aspect logique. La définition. La définition, c'est le contenu. Le point de vue de la définition, c'est le point de vue logique. Hein. L'intelligence a besoin de définir. Elle a besoin de définir. Tant qu'elle n'a pas défini, c'est pour ça que vous regardez des dictionnaires de mots latins ou de mots philosophiques pour définir, ce besoin de définir. C'est très bien, mais voyez que c'est déjà un peu dégradé. Hein. Quatrième signification. Hein. Et même presque cinquième signification. C'est très intéressant de voir ça ici. De voir ces... Et puis ce dégradé qui est le point de vue de l'essence. Et c'est ce que la scolastique gardera. Hein. La scolastique décadente. Et c'est de cette nature que Boès définit la nature lorsqu'il dit que quelle est la différence spécifique informant une chose. C'est en effet la différence qui intègre la définition de l'espèce. Alors c'est quod significat essentiam vel quod quid est sive quiditatem specie. Alors vous avez en dernier lieu la quidité. Alors, je crois que c'est très important, notez-le successivement, ça ne porte pas beaucoup de difficultés, mais ce serait très intéressant à étudier, hein, ces différents étages, pour arriver en dernier lieu à la définition, l'essence et la quidité. Alors, vous voyez tout le marécage qu'il peut y avoir entre les deux, hein, les gens qui confondent tout ça et qui oublient de comprendre les différents niveaux d'intelligibilité qui sont là présents. C'est un monde, hein, ce début. Pour l'instant. Donc, hoc otem modo accipiendo natura. Pour l'instant, nous prenons le mot nature au sens où il signifie l'essence d'une chose. Ce qu'il a défini, sa quidité. Ça, c'est très très curieux. Et en cette acception, il est impossible que l'union du Verbe incarné se fasse dans la nature. Une réalité peut être faite de deux natures ou de plusieurs en trois manières. La première. Donc, vous voyez, on étudie les diverses modalités qui peuvent se faire, les diverses manières d'union. Mais le procédé de saint Thomas est très simple. C'est intéressant à voir. C'est pour déblayer le terrain. C'est exactement ça. Vous déblayez le terrain. Vous êtes en face du mot nature. J'aurais dû demander au début du cours que chacun se recueille 5 minutes et écrive sur un petit mot, un petit papier, qu'est-ce que c'est que pour lui la nature. Alors nous aurions vu ceux qui sont à l'état primitif, ceux qui sont à l'état. Ça ne veut pas dire que le cinquième, c'est le plus intéressant. Non, c'est quelquefois le plus dégradé, parce que c'est la définition. C'est quand même celui-ci vers lequel saint Thomas tend. Hein, il y a quand même ce point de vue-là, de voir que c'est l'essence, la quiddité. C'est très curieux, ça. Essence et quiddité, c'est ça qui l'intéresse ici. Nature, il prie essence et quiddité. Alors, quelle différence y a-t-il entre essence et quiddité? C'est que la quiddité, c'est le côté de l'intelligibilité, et l'essence, c'est quand même la quiddité de cette essence qui est exprimée par la définition. La définition exprime. Exprime clairement, c'est le propre d'une définition, exprime clairement ce contenu intelligible de l'essence, qui elle-même est la nature, c'est-à-dire la nature forme, pas la nature matière. Mais la nature matière quand même, dans la mesure où il s'agit d'une réalité physique. Mais dans la mesure où il s'agit d'une réalité qui n'est pas physique, évidemment ça exprime le point de vue de la forme, ce qui est intelligible. Ce par quoi la matière est intelligible, c'est la forme. Alors vous voyez bien que lorsqu'il s'agit de la quiddité et qu'il s'agit d'essence, on est incliné normalement vers le point de vue de la forme. Tandis que quand je prends le point de départ, la croissance, la génération, c'est impliqué le composé. Alors, progressivement, j'arrive à cette simplification de l'intelligible dans ce qu'il a de plus pur. Simplement pour rappeler ça. Alors, on va maintenant, à partir de là, essayer de comprendre les diverses manières dont peuvent se faire l'union dans la nature. Une réalité peut être faite de deux autres ou de plusieurs en trois manières. Quelles sont les diverses compositions qu'on peut regarder ? La première, lorsqu'elle est faite de deux choses parfaites qui demeurent en leur intégrité, c'est ce qui arrive dans les réalités qui ont pour forme la composition accidentelle comme l'ordre, la figure. Mettez de l'ordre dans les ustensiles de cuisine. Chaque instrument est parfait en soi et vous les assemblez par un ordre. Vous mettez un ordre parmi les livres. Alors il peut y avoir un ordre matériel, je commence par les plus petits puis je termine par les plus gros. Enfin, c'est une manière, tout le monde peut comprendre cet ordre-là. Ou bien je commencerai par les matières purement descriptive, d'ordre artistique, et puis je terminerai par la philosophie première. Ça, c'est un peu le contenu. C'est plus uniquement le point de vue matériel. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. La première, qu'elle est faite de deux choses parfaites qui demeurent en leur intégrité. C'est ce qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui les unit. Quelque chose de différent. Un certain nombre de pierres réunies sans ordre forment par leur seule juxtaposition un tas. Des pierres et des poutres disposées en un ordre donné et selon une figure précise constituent une maison. toute la différence entre le, quand la maison est dégringolée. Vous voyez, alors il y a les poutres et les pierres et les briques, tout ça sans ordre. On a mis de l'ordre et ça fait une maison. Matériellement, c'est exactement la même chose, ça pèsera le même poids. Constitue une maison. C'est de cette manière que certains ont prétendu que se trouvait réaliser l'union du Verbe incarné à l'humanité, soit confusément et sans ordre, soit proportionnel et avec un ordre. Alors, on est en face d'une œuvre artistique. C'est ça qu'il faut comprendre. Quel est le type d'unité d'une œuvre artistique ? Le type d'unité d'une œuvre artistique, c'est toujours des matériaux existants avant qu'on unit. Alors, il y a une unité d'ordre, une unité d'expression, unité qui est l'unité de la figura. Facile à comprendre, ça. Évidemment, quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas l'unité artistique, c'est tout simplement les résidus d'unité artistique. L'artiste jette tout ce qui est en trop à côté, et puis il y a l'œuvre artistique qui se fait. Alors, il y a deux unions, l'union sans ordre et l'union avec ordre. L'union des déchets, l'union de tout ce qu'on rejette, et puis l'union de tout ce qui est dans une poubelle. Sans ordre. Et puis, quelqu'un qui passe par là, qui va récupérer tout ce qui est dans la poubelle, et qui va arriver à faire quelque chose de magnifique, très ordonné. Une œuvre d'art. Une telle opinion est inadmissible. Évidemment, le mystère de l'union hypostatique, le mystère de l'incarnation ne peut pas être le point de vue de ce que représente cette œuvre artistique. La composition, en effet, l'ordre et la figure sont des formes accidentelles et non substantielles. L'union du Verbe incarné serait donc accidentelle, ce qui est faux, comme nous le montrerons par la suite. Donc, ce n'est pas une union accidentelle. Ceci s'est révélé. Ce serait contre la révélation de dire que c'est une union accidentelle. Parce qu'il n'y aurait pas d'unité de personne. Oui. Le « je » du Christ ne prendrait plus de signification. Quand Jésus dit « Je suis la lumière », il faut toujours revenir à l'écriture, à travers les définitions de Chalcédoine, l'écriture doit être présente. Or, tout c'est pour sauvegarder les affirmations de l'écriture. « Je suis la lumière », Jésus dit ça. « Je suis ». Il y a le « je » du Christ. Et le « je » du Christ représente une personne qui parle, une personne qui agit. Ça ne peut pas être une unité accidentelle. De plus, l'unité qui résulte de là ne serait pas simple, mais relative. Il y aurait en fait plusieurs réalités. Donc, il n'y aurait pas de responsabilité proprement dite. Il y aurait un attelage. Il y aurait deux natures unies, avec un troisième point de vue, et il n'y aurait pas au sens strict d'une responsabilité. Enfin, la forme des objets ainsi obtenus n'est pas naturelle, mais plutôt artificielle, comme il arrive pour la maison. L'on n'aboutirait donc pas à une nature dans le Christ, comme le veulent les partisans de cette opinion. Une réalité peut encore être faite de deux autres, parfaites en elles-mêmes, mais transformées par l'union. Et donc, c'est facile à comprendre. L'unité se fait d'une façon extrinsèque. L'unité se fait d'une façon immanente. L'unité se fait d'une façon divine. Vous allez avoir les trois. Alors là, on va avoir la mixture. Comme il arrive lorsque plusieurs corps simples composent un mixte. Mais de temps en temps, on peut se demander... Est-ce qu'on est présent devant un mixte, ou bien au contraire, est-ce qu'on est présent vers une composition artistique, tu vois ? Ça peut arriver, ça, quand on vous sert des plats particulièrement composites, on peut se demander, est-ce que c'est un mixte ? Il y a des carottes, des navets, c'est très bien cuit, et là, grâce à la cuisson, il y a une espèce d'unité. Alors, est-ce que c'est un mixte, ou est-ce que c'est tout simplement une union accidentelle ? C'est la question qu'on doit se poser, parce qu'il faut essayer de comprendre cela dans les réalités les plus simples. Hein. Certains prétendent que c'est de cette manière que l'union de l'incarnation a été réalisée, à la façon d'une combinaison, donc d'une mixture, disons. Théorie insoutenable, car la nature divine est parfaitement immuable, incorruptible. Elle ne peut être convertie en une autre, inapte à être produite. Rien ne saurait être converti en elle. En outre, le mixte n'est pas de même espèce que ses composants. La chair diffère spécifiquement de chacun de ces éléments qui la composent. La chair, c'est un mixte. Le corps humain, c'est un mixte. Et quand vous analysez tous les éléments du corps humain, ce n'est pas le corps humain, ce sont les éléments du corps humain. Et le corps humain représente autre chose que tous ces éléments. L'addition de tous ces éléments ne forme pas le corps humain. Le Christ ne serait donc pas de même nature divine que son Père, ni de même nature humaine que sa mère. Donc il n'y aurait plus ni la nature humaine ni la nature divine. On serait devant un mixte, quelque chose d'unique. Enfin, on ne peut constituer un mixte avec des éléments trop disparates. Ça, c'était déjà une objection bien connue. L'un est absorbé par l'autre, comme la goutte d'eau dans la cruche de vin. Ça, c'est... On sait jusqu'où on peut aller. Combien d'eau vous pouvez mettre pour que le vin reste vin, ou au contraire, quand vous en mettez trop, alors à ce moment-là, ça change. Et puisque la nature divine dépasse à l'infini la nature humaine, il n'y aura pas de mixte, mais absorption de la nature humaine par la nature divine. Ça, c'est très, très beau. Comme l'eau par le vin. Une réalité peut encore être faite de plusieurs autres qui, imparfaites en elles-mêmes, demeurent inchangées dans l'union. L'âme et le corps dans la constitution de l'homme. Les divers membres dans la constitution du corps. Mais l'on ne saurait entendre ainsi le mystère de l'incarnation. Les deux natures divines et humaines, en effet, sont parfaites, chacune en son genre. En outre, elles ne peuvent être unies comme les parties quantitatives, ainsi que le sont les membres du corps, car la nature divine est incorporelle. Elles ne peuvent pas davantage être unies comme forme et matière, car la nature divine ne saurait être forme, surtout corporelle. De plus, le résultat d'une telle union serait une espèce nouvelle, communicable à plusieurs. Il pourrait y avoir plusieurs Christs. Enfin, le Christ n'appartiendrait ni à la nature divine, ni à la nature humaine, car une différence ajoutée varie l'espèce comme l'unité dans le nombre. Donc vous voyez cette manière de supprimer, de montrer les impossibilités de comprendre cette union qui pourrait se faire dans une nature. Donc, l'union du Verbe incarné ne peut pas être le résultat constituant une nouvelle nature. Ça peut être résultat de divers éléments constituant une nouvelle nature. Ce serait contraire à toute la grande affirmation de l'Écriture. Le Père et moi, nous sommes un. L'unité avec le Père. Et en même temps, Jésus est capable d'agir comme nous. Et donc, il faut unir ces deux dans le jeu du Christ. Et là, nous voyons que l'unité ne peut pas se faire dans la nature. Alors vous voyez, l'unité dans la nature, c'est justement le point de vue, et c'est pour ça que saint Thomas prend la qualité et le sens. Si elle se faisait dans la nature, il faudrait qu'une nature absorbe l'autre. Il faudrait nécessairement, ou bien alors il faudrait une union accidentelle. Pratiquement, ça se ramène à ça. Ça se ramène ou à une union accidentelle, artificielle, ou pratiquement à l'absorption complète. C'est les deux extrêmes. Ces deux extrêmes, je crois qu'ils sont intéressants à retenir, qu'on ne peut pas accepter. Alors, s'il y a des difficultés, vous les noterez toujours, hein, au passage. On peut aller vite, ça, parce que c'est intéressant, mais vous comprenez qu'on rejette. Hein. Donc, c'est pas intéressant de regarder les erreurs. C'est intéressant de les comprendre pour que nous comprenions que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent. Dites-vous bien ça. Le démon, qui est source de toute erreur, n'est pas infini dans ses erreurs. Alors, il y a quelques erreurs qui reviennent tout le temps. Et ces quelques erreurs sont intéressantes à voir pour mieux saisir le point de vue de la vérité. Donc, je regarde tout de suite l'objection de première et la réponse à cette objection. La réponse de saint Thomas est celle-ci. La parole de saint Cyrille est ainsi expliquée par le 5e concile œcuménique. Si quelqu'un, reconnaissant une nature incarnée de Dieu le Verbe, ne l'entend pas, conformément à la doctrine des pères, en ce sens que de la nature divine et de la nature humaine, l'union selon l'hypostase, une fois réalisée, il est résulté un Christ. Mais si, par ces expressions, il tente d'introduire une nature ou essence de la divinité et de la chair du Christ, qu'il soit anathème. Il ne s'agit donc pas, sur l'autorité de saint Cyrille, de reconnaître dans l'incarnation une nature composée de deux autres, mais d'admettre que l'unique nature de Dieu, le Verbe, s'est unie la chair dans la personne. Alors peut-être qu'on voit l'objection suivante. Saint Athanase écrit, ça c'est une analogie intéressante et qui prête évidemment à confusion, comme beaucoup d'analogies, mais on est bien obligé de se servir d'analogie. Et saint Thomas va essayer de trouver quelle est l'analogie qui va être la plus conforme. Ici, il rejette, c'est facile. Saint Athanase écrit, « De même que l'âme rationnelle et la chair forment un seul homme, de même Dieu et l'homme forment un seul Christ. » Je la prends parce que c'est une analogie que nous portons en nous, hein. Toujours un petit peu, l'union de l'âme et du corps. Alors j'ai dit, j'ai compris, vous voyez, l'union de l'âme et du corps. Alors, transposons, l'âme c'est le Verbe et le corps c'est la nature humaine. C'est la chair. Le Verbe est devenu chair. Le Verbe est devenu chair. L'âme est devenue incarnée. Alors, on fait l'analogie. Vous voyez que ça ne porte pas. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que de l'âme et du corps, l'homme, une nature, une essence. Alors ici, le Verbe et la chair devraient former une nature une essence. Et il n'y aurait plus, justement, l'unité avec le Père, l'unité avec les hommes. Alors, voici ce que saint Thomas répond. Oui, alors, mais l'âme raisonna, mais l'âme rationnelle et la chair constituent par leur union une nature humaine. Ainsi, semble-t-il, Dieu et l'homme, en s'unissant, constitueront quelque nouvelle nature unique. Alors, l'âme et le corps constituent en chacun de nous une double unité de nature et de personne. Il s'agit de sauver saint Athanase. On est. Saint Thomas vient au salut de saint Athanase. L'âme, en s'unissant au corps, en effet, lui donne sa perfection formelle. Et les deux constituent une nature unique, car ils sont l'un vis-à-vis de l'autre, comme acte et puissance, comme forme et matière. Ce n'est pas de ce point de vue que l'on peut trouver une comparaison pour l'incarnation, car la nature divine ne sera jamais forme d'un corps. Mais il y a une unité personnelle du fait qu'un seul individu subsiste en la chair et en l'âme. Et sous ce rapport, l'on peut parler d'analogie avec l'incarnation. Car un seul Christ subsiste en la nature divine et en la nature humaine. Donc, vous voyez, là, ce que saint Thomas nous dit, c'est intéressant à bien noter. Quand on parle de l'union de l'âme et du corps, c'est évident, on voit ça en premier lieu. Mais on peut parler aussi l'âme mortelle, elle subsiste dans le corps. Si elle subsiste dans le corps, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que le corps a laissé par l'âme. Il y a donc son unité d'être par l'âme. Et donc là, il y a une certaine analogie dans le fait que le Verbe fait que la nature humaine subsiste dans le Verbe. Et que la nature humaine du Christ a laissé par le Verbe. Là, il y a une certaine analogie. Je ne crois pas que saint Athanase pensait ça de cette manière aussi subtile de saint Thomas, mais il donnait ça en gros. Vous voyez, comme dire de l'âme, de l'union de l'âme et du corps, il y a une unité nouvelle, et bien il peut y avoir du Verbe et de la nature humaine une unité. Vous voyez, c'est le style plus prédicateur. Hein. Dire ça, on dirait ça, un prédicateur dirait ça aujourd'hui, il y en a sûrement qui le disent, hein. Ça j'en suis sûr, ça continue de se dire. Alors il y aurait un théologien qui assisterait, et après le prêche du curé, monsieur le curé, vous avez fait une hérésie. Attends, j'ai pas fait une hérésie, je suis tout à fait dans la grande tradition de saint Athanase. On voit très bien comment on peut, et c'est très important, ça, vous voyez. Et c'est la souplesse que donne saint Thomas, là. Saint Thomas veut sauver, il y a quelque chose de juste. Alors, comprenons bien ce qu'il y a de juste. Ce qu'il y a de juste, c'est que, c'est vrai, l'unité n'est pas seulement du côté de l'âme et du corps qui informe. Autrement dit, l'âme, par rapport au corps, est cause formelle. L'âme, par rapport au corps, est l'acte. Ce qu'on dit. C'est la bonne philosophie aristotélicienne. Hein. L'âme assume le corps et l'actue. L'âme informe le corps. Du côté informe le corps, non. Du côté acte, on peut discuter. Il y a un petit quelque chose de commun. Donc, il y a une certaine analogie. Parce que l'exister du corps, c'est l'exister de l'âme. Il n'y a pas deux exister. Votre exister, votre essai, c'est l'exister de l'âme. Eh bien, la même chose pour le Verbe. C'est très intéressant, ça, parce que, vous savez, on verra, hein, quand on y sera, une fameuse question très disputée aujourd'hui entre thomistes, savoir s'il y a deux essais dans le Christ ou un seul. Eh bien, ça, c'est un argument merveilleux pour l'unique essai. Parce qu'il n'y a qu'un essai. pour l'âme et le corps. Or, il n'y a qu'un essai par rapport au Verbe et la nature humaine. La nature humaine du Christ existe dans le Verbe. Donc, exactement comme l'âme existe dans l'âme, comme le corps existe dans l'âme, subsiste dans l'âme. Notez ça, hein, parce que c'est important et c'est intéressant à noter, cette manière dont saint Thomas ici interprète ce point de vue. Alors, troisième objection. Deux natures se peuvent être dénommées l'une par l'autre dans leur caractère propre qu'à la condition qu'elles soient de quelque façon changées l'une en l'autre. Mais saint Cyril dit de la nature divine du Christ qu'elle est incarnée. Et saint Grégoire de Nazianze dit de la nature incarnée, de la nature humaine, qu'elle est déifiée. C'est donc que ces deux natures sont fondues en une seule. C'est très joli, ça, d'opposer saint Cyril, saint Grégoire de Nazianze. C'est très intéressant. Et on touche là, vous voyez. C'est ça qui est intéressant dans ces objections que saint Thomas souligne là, c'est que on peut tirer des pères de l'Église des quantités de choses, parce que les pères de l'Église, ce n'est pas assez précis. C'est vrai, ça, c'est un fait. C'est pour ça que c'est très très bien de revenir au père, mais si c'est pour revenir au père de l'Église pour l'imprécision, ça ne va pas. Pour retourner au père de l'Église, pour retrouver la source, ah, c'est très bien. C'est deux choses, il y a deux retours au père tout à fait différents. Il faut bien le comprendre. Alors, comme l'explique Damascène, on peut dire que la nature divine, et vous voyez, il s'applique sur Damascène, hein, Cyril, Grégoire Nazianze, Damascène. Comme l'explique Damascène, on peut dire que la nature divine est incarnée, en ce sens qu'elle se trouve unie personnellement à la chair, non qu'elle est convertie en elle. Alors, voyez bien, natura divina dicitur incarnata quia est unita carni personalitaire. Alors, c'est ce personnalité qui commence à poindre, hein, et qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que la nature humaine, la nature divine est incarnée parce qu'elle est unie à la chair personnalitaire. Non quod sit in naturam carnis conversa. Donc qu'elle soit convertie dans la chair. Non. On peut dire également que la chair est déifiée, non par conversion, mais par une union au Verbe qui sauve ses propriétés naturelles. En d'autres termes, la chair est déifiée, non parce qu'elle devient Dieu, mais parce qu'elle devient la chair du Verbe de Dieu. C'est aussi très important, ça, pour tous ceux qui veulent voir le point de vue de la déification. Hein. C'est très important de voir la manière dont saint Thomas ici montre la déification de la chair du Christ. La chair du Christ est divine. Non pas qu'elle est transformée en Dieu et qu'elle devient Dieu, mais parce qu'elle est unie au Verbe de Dieu personnellement. Et parce qu'elle devient la chair du Verbe de Dieu. Elle devient la chair du Verbe de Dieu. Donc, elle est assumée par le Verbe de Dieu dans l'unité de personne. Donc, elle devient bien la chair de Dieu. Mais elle n'est pas Dieu. Ouais, petite subtilité. Hein. Et vous voyez combien la métaphysique de la cause formelle. Alors évidemment, si on n'a pas cette distinction, ce qui n'est pas si commode que ça, avoir la distinction entre le point de vue de la forme et l'acte, si on n'a pas cette distinction, impossible, on ne peut pas en s'en tirer. Et on verra progressivement. C'est ça qu'il faut essayer de saisir, vous voyez. Il faut saisir pour essayer d'entrer dans le mystère, respectant le mystère, essayer de saisir le mystère. Qu'est-ce qui est impliqué dedans? Alors, nous voyons ici tout de suite, hein, c'est le point de vue cause formelle et l'acte. L'acte, c'est la fin. Alors, si vous ne distinguez pas la fin de la forme, impossible. Première chose qu'on voit ici. Alors, l'article suivant. L'union du Verbe incarné se fait-elle dans la personne ? C'est très curieux que saint Thomas n'ait pas commencé par cet article-là. Parce qu'en fait, le premier article, c'est pourquoi ? C'est pas la peine, c'est les erreurs qu'on écarte. Il faudra se demander ça. Parce que c'est sûrement pas laissé au hasard. Moi, j'aurais tout de suite commencé par l'article 2. Pour faire vite. J'aurais commencé par l'article 2, tout de suite, quoi, c'est ça la doctrine. Et puis ensuite, on montrerait que cet article évacue les autres choses. Pourquoi saint Thomas prend-il l'autre ordre ? Alors, première objection, la personne en Dieu ne diffère pas de sa nature. Si donc l'union ne se fait pas dans la nature, elle ne peut pas se faire dans la personne. Alors vous venez de dire qu'elle ne se fait pas dans la nature, elle ne se fait pas dans la personne, puisque en Dieu il y a la simplicité. Ah, très bon argument, c'est la simplicité. En Dieu, regardez l'article 3, la question 3 de saint Thomas. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre le suppôt et la nature. Pas de distinction entre l'hypostase et la nature. C'est bien évident. Or, vous dites que l'union ne se fait pas dans la nature, donc elle ne se fait pas dans la personne. Là, vous êtes coincé. Parce que vous allez contre la simplicité. Alors, c'est la simplicité qui commande tout ça. Réponse. On lit dans les actes du concile de Chalcédoine, vous voyez comment la théologie positive est présente ici. C'est le concile de Chalcédoine. Et c'est très beau de voir que saint Thomas prend le concile de Chalcédoine, hein, s'appuie dessus. Alors quand on dit qu'il n'est pas... Non, il connaît parfaitement. Hein. Nous confessons un seul et même Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Qui n'est ni partagé, ni divisé.